Donc alors, voilà, je vais commencer déjà par vous présenter la tribune. Donc à ma gauche, Valérie Foisset, qui est aide-soignante au CHU de Rouen. Nathalie Arthaud, candidate de lutte ouvrière dans les élections présidentielles. Et moi-même, Pascal Lehanac, je suis ouvrier à Renault-Cléon et porte-parole de lutte ouvrière en Normandie.
Eh bien, je donne tout de suite la parole à Nathalie Arthaud.
Travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades, je pense que vous le savez, nous sommes en pleine période de collecte des 500 parrainages. Et à ce jour, le Conseil constitutionnel a enregistré 314 parrainages pour ma candidature. Alors je peux dire que c'est en bonne voie. Et si les parrainages continuent d'arriver à ce rythme-là, eh bien je serai candidate. Attention quand même, hein. Je resterai une petite candidate aux yeux des médias parce que, mis à part les 15 derniers jours où il existe une égalité stricte de temps de parole, les grands médias vont continuer d'organiser, vous savez, deux campagnes parallèles. Une campagne pour les grands candidats qui vont avoir le temps de s'expliquer en long, en large, en travers. Et puis une autre pour les petits candidats qui n'auront droit qu'à quelques miettes d'interview par-ci, par-là. C'est en contradiction avec toutes les déclarations sur la neutralité et sur le pluralisme de la plupart des journalistes, mais c'est comme ça. Cela s'appelle, d'après le CSA, le principe de l'équité. La médiatisation peut être proportionnelle aux intentions de vote données par les sondages. Autant dire que chaque chaîne peut faire à peu près ce qu'elle veut. Les multimilliardaires comme Bolloré, Lagardère, Bouygues ou Drahi, qui ont acheté des chaînes de télé et des journaux, peuvent donc se payer une campagne sur mesure et ils peuvent décider quel candidat aura ou pas la parole. Mais je peux vous dire que ce n'est pas mieux sur les chaînes et sur les chaînes publiques et sur les radios publiques. Alors oui, tout ce système médiatique est bien verrouillé, mais il ne faut pas non plus s'en étonner, hein, parce que on le sait très bien, hein, quand les travailleurs manifestent, quand ils sont en grève, eh bien ils ne sont pas mieux traités. Jamais les médias n'ont déroulé le tapis rouge à ceux qui remettaient en cause l'ordre établi. Ils protègent comme ça leur pouvoir, c'est dans l'ordre des choses. Et c'est d'ailleurs à cela que l'on vérifie qui est réellement dans le système et qui ne l'est pas. Alors oui, d'un certain côté, c'est une reconnaissance. Nous ne faisons pas partie du paysage et nous ne faisons pas partie de ce personnel politique qui s'accommode de cet ordre social injuste. Et je dois le dire, nous n'aspirons pas à en faire partie. Et si je participe à l'élection présidentielle, eh bien, à la différence des autres candidats, je ne joue pas le jeu électoraliste. Je ne suis pas candidate pour devenir présidente de la République. Ni moi, ni Arlette Laguiller avant moi, n'avons jamais rêvé de l'Élysée ou de Matignon. Nous ne voulons pas participer à la gestion de ce système qui est basé sur le capitalisme, c'est-à-dire sur l'exploitation et sur l'oppression. Nous voulons le renverser. Et nous sommes convaincus que les travailleurs, les exploités, peuvent le faire et qu'ils peuvent imposer une gestion collective de la société à condition qu'ils en aient conscience, à condition qu'ils se battent tout simplement pour leurs intérêts. Alors, et dans ces élections, eh bien, nous pouvons faire avancer ce combat. C'est pourquoi j'appelle les travailleurs, les ouvriers, les chômeurs à mettre en avant leurs intérêts contre les licenciements, contre les suppressions d'emplois, contre l'augmentation du temps de travail et l'aggravation de l'exploitation, contre les bas salaires. Je les appelle à affirmer une politique de classe, un programme pour les travailleurs. Je les appelle à faire un vote de conscience et de combativité ouvrière. Alors, les commentateurs politiques parlent d'une campagne où tout est possible. Cette campagne offre en effet un spectacle inédit. Plusieurs candidats, sans être nouveaux en politique, se sont invités de façon assez inattendue dans cette campagne. Bon, c'est le cas de Fillon qui a été choisi pour éliminer Sarkozy, c'est le cas de Hamon qui a sorti Valls, mais c'est aussi le cas de Macron qui, de bulle médiatique, est devenu aujourd'hui le favori. Et en plus de ce casting renouvelé, eh bien on a droit à des rebondissements avec désistements, ralliements, tractations d'appareils, divisions et bien sûr démêlées judiciaires qui rajoutent, il faut le dire, pas mal de piquants à cette campagne. Bon, vous avez suivi le dernier rebondissement du feuilleton Fillon. Hein. Pour la première fois, peut-être, nous allons avoir un candidat à la présidentielle mis en examen. Alors vous l'avez forcément entendu, hein, Fillon s'offusque et parle d'acharnement de la justice et de complot politique. Mais qui parle toujours de tolérance zéro ? Qui a condamné, avant que la justice s'en mêle, les salariés d'Air France dans l'affaire de la chemise ? Fillon a été pris la main dans le sac, alors ne boudons pas notre plaisir de le voir aujourd'hui patauger dans les affaires judiciaires. Alors oui, cette campagne, avec ses coups de théâtre, ses hommes politiques mis en examen, a de quoi surprendre. Mais elle reflète quelque chose de bien plus fondamental. Elle reflète la décrépitude d'un système politique en bout de souffle. Comme dans bien d'autres pays, la crise économique a discrédité ceux qui gouvernent depuis des décennies. Et elle a eu raison du ronron de l'alternance gauche-droite. Alors oui, il est impossible de prédire qui finira président de la République et comment il construira sa prochaine majorité. Dans les mois à venir, le système politique peut très bien connaître une crise. Mais dans tout cela, il y a une chose certaine, c'est que les affaires de la bourgeoisie seront bien gardées. Parce que, quelles que soient les péripéties politiciennes, eh bien, le grand capital imposera sa politique et il trouvera le prochain président de la République à ses pieds parce que tous ceux qui sont susceptibles d'arriver à l'Élysée sont les serviteurs dévoués de la bourgeoisie. Fillon, on a tendance à l'oublier, mais il est quand même le porte-parole par excellence du grand patronat. D'ailleurs, il a pris en fait en intégralité le programme du MEDEF. C'est la suppression des 35 heures, la hausse de la TVA, la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires. Autrement dit, il déclare la guerre aux travailleurs. Comme Fillon, mais de façon plus honteuse, Macron veut lui aussi servir la soupe au patronat. Il s'érige en petit nouveau de la politique, plein d'idées soi-disant fraîches, originales. Mais Macron, c'est quand même le travail du dimanche, c'est la remise des bus sur la route, c'est le culte de l'individualisme du chacun pour soi. Il ne jure que par ses auto-entrepreneurs, qui ne sont en réalité que des salariés, sans contrat de travail et sans protection sociale. Bien sûr, ils sont libres, mais ils sont surtout libres de s'auto-exploiter pour le compte de grands groupes capitalistes. Et quel est le programme de Macron exactement ? Eh bien, c'est la continuation de la politique anti-ouvrière menée par Sarkozy, puis par Hollande. Avec d'un côté la pérennisation des cadeaux au patronat, baisse de l'ISF, continuation du crédit d'impôt compétitivité emploi, et de l'autre la suppression de postes de fonctionnaires. Pour Macron, c'est 120 000. C'est la remise en cause aussi de la retraite, hein, vous savez, toujours au nom de l'égalité entre les régimes spéciaux et le privé. Et puis c'est l'augmentation de la CSG, ce sera 15 milliards de moins sur l'assurance maladie et 10 milliards de moins sur l'assurance chômage. Quant à Le Pen, eh bien elle prévoit elle aussi des suppressions d'emplois dans la fonction publique et des cadeaux au patronat. Mais elle cache son jeu en brandissant la retraite à 60 ans et 80 euros de prime pour augmenter les plus bas revenus. Mais Où veut-elle prendre cet argent? Et bien sûr, ce que coûterait l'immigration. Autrement dit, elle veut s'attaquer aux migrants qui fuient la guerre ou une dictature féroce. Ou elle veut s'en prendre à des travailleurs qui sont parfois ici depuis 5, 10 ans. En voulant taxer leur contrat de travail ou en imposant qu'ils payent pour leur couverture sociale ou pour l'éducation de leurs enfants, elle s'en prend aux immigrés. C'est-à-dire, elle s'en prend à ceux qui travaillent sur les chaînes de montage, dans les entreprises de nettoyage, de gardiennage ou de surveillance. Elle s'en prend à des ouvriers, à des intérimaires. Elle brandit exactement la même politique que celle du patronat, c'est-à-dire diviser pour régner. Le Pen, c'est notre Donald Trump française. Elle se déguise en candidate anti-système pour en prendre la tête et pour faire fructifier la fortune de ses petits copains et des plus riches. Pour plaire aux classes populaires, elle verse des larmes de crocodile sur les chômeurs et les plus pauvres, à condition bien sûr qu'ils soient français. Parce que bien sûr, c'est une démagogue qui se sert des préjugés racistes et de la xénophobie et qui les alimente pour ne pas avoir à dénoncer les véritables responsables du recul de la condition ouvrière. Alors oui, elle est bien la dernière roue de secours de cette bourgeoisie. Alors à gauche, on a Hamon, hein, qui veut nous faire entendre une toute autre musique. Pour faire oublier le bilan du quinquennat Hollande, il s'est singularisé avec son idée de revenu universel. Il parle de 750 euros d'ici à 2022, hein, dans pas mal de temps. Hein. Parce que, dit-il, il y aura de moins en moins de travail et, sous-entendu, de plus en plus de chômeurs. Et cela a suffi pour que certains reparlent de la gauche qui fait rêver. Mais le fait de devenir un assisté ne fait rêver absolument aucun travailleur. Parce qu'un travail, ce n'est pas seulement du salaire, mais c'est aussi de la dignité. Il n'y a que chez les bourgeois, chez les fillons, chez tous ces petits copains, qu'on est fier de s'enrichir sans rien faire. Mais dans le monde du travail, ça ne marche pas comme ça. Et puis, position assez significative aussi, Hamon évoque la réaffectation et le conditionnement du CICE. Parce que, dit-il, ces 41 milliards ont été mal dépensés. Mais il ne demande pas, l'idée ne vient pas à l'esprit, apparemment, de demander aux entreprises qui ont empoché cet argent de rembourser et de rendre des comptes. Pourtant, ce serait logique. Quand il y a eu erreur sur la marchandise, quand il y a eu tromperie sur la marchandise, on demande à être remboursé. Eh bien, Hamon ne l'imagine pas, parce qu'il ne veut rien imposer au grand patronat. Il ne veut pas le contraindre à quoi que ce soit, et surtout pas à payer. Et en cela, il est le digne héritier du Parti socialiste. Alors bien sûr, aujourd'hui, les Macron, Fillon, Le Pen, Hamon s'opposent. Ils s'envoient des noms d'oiseaux, mais ils ont en commun le même parti pris. Ils sont convaincus que sans les capitalistes, il n'y a pas de croissance, pas de prospérité, pas d'emploi. Leur politique consiste donc à les amadouer, à les bichonner. Il faut toujours laisser les capitalistes faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Eh bien, je suis candidate pour dire exactement l'inverse. Je suis candidate pour dire que la bourgeoisie, les actionnaires et les PDG prétendent être la clé de voûte de l'économie, mais en réalité, ils ne sont rien sans nous. Imaginez les Arnaud sans les salariés des hôtels et des restaurants de luxe. Imaginez-les sans les conducteurs de train et les pilotes d'avion, sans leurs femmes de ménage et leurs majordomes. Si nous ne faisions plus tourner leurs bureaux, leurs usines, où feraient-ils fructifier leur fortune? Ensemble, nous les travailleurs, nous faisons tourner toute la société. Nous produisons toutes les richesses, y compris les super profits qui sont encaissés par une minorité, y compris les produits de luxe qui sont réservés aux plus riches. Les progrès des transports, de la médecine, toutes les prouesses techniques, c'est nous. Nous sommes indispensables à la bonne marche de l'économie et de la société. Eh bien, il faut que nous l'affirmions dans cette élection. Et il faut que ce soit notre boussole politique. Nous sommes mille fois plus légitimes à mettre en avant nos revendications que cette classe capitaliste qui est minoritaire et qui est parasite. Nos intérêts, nos emplois, nos salaires, nos retraites, nos conditions de travail et de vie doivent passer avant les parachutes dorés des PDG, avant les dividendes des actionnaires, avant les fortunes de cette minorité capitaliste. Si l'on veut que le camp des travailleurs se renforce, qu'il soit visible, y compris par tous ceux qui sont écœurés de la politique, comme par ceux qui veulent voter pour le Front National, eh bien, il faut qu'il se manifeste dans cette élection. Il faut qu'il se rassemble derrière ses intérêts, sa politique, son programme. Le premier point de ce programme, c'est d'éradiquer le chômage. Le patronat, et puis à sa suite tous les politiciens, prétendent qu'on ne peut pas assurer les emplois sans commandes qui soient stables, continues. Eh bien, nous, travailleurs, nous devons affirmer qu'on ne peut pas vivre sans travail et que notre vie ne peut pas dépendre des aléas de leur carnet de commandes. Nous ne sommes pas des machines que l'on peut brancher et débrancher. Nous avons une vie, une famille. Les loyers, les factures tombent tous les mois, même quand on a perdu son boulot. Il faut remplir l'estomac des enfants. Alors il faut que tout le monde ait un travail et un salaire. Et la première mesure de bon sens, eh bien, c'est d'interdire les licenciements et les suppressions d'emplois, à commencer par les entreprises qui font des bénéfices sous peine d'expropriation. Regardez Peugeot. PSA a réalisé sur les 18 derniers mois 2,4 milliards de bénéfices. Et en 2016, il a même explosé les records puisqu'il a fait 2,15 milliards de bénéfices. Et il a, dans le même temps, supprimé 17 000 emplois. Sanofi réalise 7 à 8 milliards d'euros de profits chaque année et a supprimé 4 700 emplois entre 2008 et 2015 et en supprime encore aujourd'hui. Et c'est vrai dans absolument tous les secteurs. C'est vrai dans le secteur bancaire, dans le secteur de l'assurance, c'est vrai même dans le secteur des médias. Il se débrouille toujours pour ne pas parler de licenciement. Mais c'est autant d'emplois qui disparaissent, et au final, eh bien, cela fait des dizaines de milliers de chômeurs en plus. Alors oui, tous ces grands groupes capitalistes sont les plus grands fabricants de chômeurs, et la première des choses, c'est de les arrêter de nuire. Et je n'oublie pas non plus les salariés des plus petites entreprises. Je sais qu'ils sont aussi concernés par les licenciements. Mais la situation de ces petites entreprises dépend bien souvent de ces grands groupes ou des banques. Alors il faut imposer à cette classe capitaliste et aux banquiers, il faut leur imposer qu'ils soient mis à contribution et qu'ils payent pour préserver les emplois, y compris dans ces petites entreprises qu'ils étranglent. Parallèlement, il faut bien sûr créer des millions d'emplois pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, pour tous ceux qui n'ont droit depuis des années qu'à quelques heures de boulot, par-ci, par-là, et pour tous ceux qui sont rejetés de la production parce qu'ils sont invalides ou handicapés. C'est possible, immédiatement, en imposant que le travail soit réparti entre tous. Et ce serait une mesure salutaire pour l'ensemble du monde du travail. Parce que dans presque toutes les entreprises, que ce soit dans le privé ou dans le public, eh bien la charge de travail a été alourdie. Les horaires de travail auxquels il faut ajouter le temps de transport sont devenus délirants. Et il faut soulager ceux qui ont un emploi en diminuant leur temps de travail et en créant des emplois, de vrais emplois avec un salaire complet. Il faut faire exactement l'inverse, le contraire de ce que Renault est en train de faire en imposant un second accord de compétitivité avec heures supplémentaires et samedi travaillé obligatoire. Si nous laissons faire le grand patronat, ce n'est pas 6 millions de chômeurs qu'on comptabilisera, mais 7, 8, 9, 10 millions. Alors oui, il faut imposer des mesures contraignantes à cette classe capitaliste. Et puis, regardez les services publics. Est-ce qu'il y a trop d'infirmières ou d'aides-soignants dans les hôpitaux ? Regardez la catastrophe dans laquelle sont certaines écoles, certains collèges. Est-ce qu'il y a trop d'enseignants ? Pour ce qui est des logements, il en manque 1 million accessibles à un salaire d'ouvrier. Est-ce que nous n'avons plus besoin de maçons, de peintres en bâtiment, d'ingénieurs ? Il y a un grand nombre de besoins à satisfaire dans cette société. Alors, il y a en face autant d'emplois à créer. Alors oui, la répartition du travail entre tous et la réduction du temps de travail sont des objectifs nécessaires et vitaux pour toute la société. Et j'insiste là-dessus, parce que le chômage est le fléau qui pourrit la société de l'intérieur. Il aggrave la misère, il marginalise, mais aussi il pousse à l'individualisme, à la compétition entre travailleurs. Et c'est aussi de là que naît la peur de l'autre et la déshumanisation de la société. Alors oui, pour nous, c'est la priorité. Il faut un emploi et un salaire pour tous. À côté de cela, il faut augmenter les salaires et les pensions de retraite. Les principaux candidats, ceux susceptibles donc d'être élus, nous expliquent qu'il est impossible pour les entreprises d'augmenter le SMIC. Le Pen explique, je la cite, qu'elle n'a jamais proposé une augmentation du SMIC payée par les entreprises. Non, il faut qu'on se la paye, notre augmentation du SMIC. Pourquoi ? Parce qu'elle ne veut pas créer de difficultés au patronat. Mais les difficultés qu'ont des millions de femmes et d'hommes à se loger, à se soigner, même tout simplement à se nourrir, les privations qu'ils s'infligent parce qu'ils sont payés au lance-pierre, elles n'existent pas ? Eh bien, si, justement, elles existent, mais Le Pen et tous les autres candidats s'en moquent, eh bien, ce n'est pas notre cas. Je suis candidate pour placer ces difficultés et ces intérêts au-dessus de tout. Alors oui, nous sommes pour l'augmentation des salaires. La CGT met en avant la revendication de 1 800 euros par mois. Et il suffit de faire ses comptes. Il faut payer entre 500 et 700 euros pour le loyer ou le crédit logement, et parfois davantage, 50 ou 100 euros par mois pour le gaz, l'électricité, l'eau, 50 ou 100 euros pour les assurances, la complémentaire santé. Il faut payer l'accès à Internet, le téléphone portable. Ça tombe bien, il sonne. Il faut payer les traites de la voiture, l'assurer, faire le plein. C'est encore 400 ou 500 euros minimum qui s'en vont. Il faut encore payer les impôts sur le revenu, la taxe d'habitation. À la fin, il reste quelques euros par jour pour payer nourriture, vêtements et autres articles de consommation courante. Et avec des enfants, eh bien, c'est encore bien plus serré. Alors oui, 1 800 euros net par mois, eh bien, c'est le minimum qu'il nous faut pour tous les salaires et pour les pensions. Quant aux minima sociaux, comme le RSA ou l'allocation à adultes handicapés, eh bien, ils doivent être eux aussi transformés en salaire, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais tout le monde doit avoir le droit d'être intégré à une activité utile dans cette société. Et quand je parle de 1 800 euros, il faut bien avoir en tête que ce n'est qu'un rattrapage. Il y a 10 ans, le SMIC net, qui est aujourd'hui à 1 150 euros, était de 1 000 euros. Déjà, à l'époque, il avait pris du retard sur l'inflation. En 10 ans, le SMIC a donc augmenté de 15%. Et savez-vous de combien ont augmenté les salaires des PDG du CAC 40 en 10 ans ? De 65%. Alors oui, il faut un minimum de 1 800 euros net par mois et une augmentation minimale de 300 euros de tous les salaires. Et pour que ces hausses soient durables, eh bien, il faut que les salaires, les pensions de retraite suivent les augmentations du coût de la vie, celles des loyers, du gaz, des mutuelles, des impôts, des taxes et des péages d'autoroute. On nous dit qu'il n'y a plus d'inflation. Mais il suffit de comparer sa taxe d'habitation avec celle de l'année précédente ou sa facture d'électricité pour se rendre compte que les prix augmentent. Entre les salaires et les prix, il y a une course perpétuelle. Alors, ce qui compte, c'est que nos salaires et nos pensions de retraite suivent le coût de la vie. La société est riche. Elle est très riche. Il faut prendre l'argent nécessaire sur les profits des entreprises, sur les dividendes distribués aux actionnaires et, au besoin, sur leur fortune accumulée au détriment de générations de travailleurs. C'est la raison pour laquelle les travailleurs doivent imposer la transparence sur les comptes des entreprises. Le grand patronat a érigé le mensonge et l'opacité en art de gouverner. Et avec le secret des affaires, eh bien, la loi est faite pour les couvrir. Prenez l'exemple du groupe Vivart. Vous savez que l'enseigne André et Naf Naf sont à vendre, que la halle aux vêtements et la halle aux chaussures vont fermer des dizaines de magasins et que ce sont 2000 emplois sur la sellette. Qu'est-ce qui a tué ce groupe Vivart? Ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas les salaires. Un gérant de magasin y est payé 1400 euros net et tous les autres salariés sont autour du SMIC. Non, ce qui a tué ce groupe, ce sont des fonds capitalistes qui ont siphonné les bénéfices du groupe, qui l'ont forcé à emprunter de l'argent. Auprès de qui, s'il vous plaît? Eh bien, auprès de ces mêmes fonds, à des taux de 11, de 12%. Alors, si les salariés du groupe avaient connu toutes ces manœuvres financières, ils auraient pu davantage anticiper, ils auraient pu dénoncer, s'organiser pour se défendre. De fait, les salariés savent tout ce qui se passe dans les entreprises. Pas un courrier, même secret, n'échappe à l'assistante du PDG. Là, je parle d'une assistante qui travaille vraiment, hein. Voilà. Tout simplement parce que ce courrier, elle le prépare, elle le tape, elle l'envoie. Alors oui, collectivement, en rassemblant toutes les informations parcellaires auxquelles nous avons accès, les salariés peuvent avoir le contrôle sur toutes les décisions et sur l'argent qui circule dans l'entreprise. Les patrons le savent, et d'ailleurs ils le craignent. C'est la raison pour laquelle ils imposent le secret professionnel aux salariés. Eh bien, il faut revendiquer de supprimer ce secret. Cette mesure est un objectif essentiel parce qu'elle modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs en donnant de nouvelles armes aux travailleurs. Il en serait fini du chantage patronal, des rumeurs et des fausses informations. Nous saurions à quoi nous en tenir et nous pourrions anticiper, nous organiser face aux attaques patronales et même prendre l'initiative pour imposer nos intérêts. Et puis, en ayant accès aux véritables comptabilités de ces grands groupes capitalistes, eh bien, on mesurerait l'ampleur de ce que l'exploitation rapporte. Et on mesurerait qu'il est tout à fait possible et d'augmenter les salaires et d'embaucher massivement dans tous ces grands groupes capitalistes. Alors voilà notre programme. Ce n'est pas, comme tous les autres candidats, un catalogue de promesses numérotées qui seront aussi vite bafouées qu'elles ont été inventées. C'est un programme qui découle de nos besoins. Et oui, c'est le plus radical. Parce que contrairement aux autres candidats, nous ne cherchons pas à épargner la bourgeoisie et ses profits. Contrairement aux autres, nous ne considérons pas le marché et la concurrence comme des lois de la nature. Mais comme les bases d'un système établi par une minorité qui ne fonctionne que pour une minorité. Nous sommes communistes et nous pensons que la société devrait fonctionner sur des bases collectives, dans l'intérêt de tous. Autrement dit, nous n'avons aucun fil à la patte. Nous pouvons nous engager dans le bras de fer avec le patronat parce que nous sommes prêts à le combattre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à son expropriation. J'appelle les travailleurs qui sont d'accord avec ce programme à voter pour ma candidature. Je les appelle à faire un vote de classe et de combativité. Voter, ce n'est pas encore agir et se battre réellement. Mais le combat commence dans les têtes. On ne peut pas se lancer dans le combat sans être sûr de sa légitimité. Et on ne peut pas gagner sans être sûr de nos intérêts. Sans comprendre où sont nos ennemis, nos faux amis. Et tout cela se forge dans le combat des idées et dans le combat politique. Le premier tour de cette élection présidentielle nous donne l'opportunité d'avancer dans ce sens-là, alors il faut y aller. Nous n'avons pas encore de parti à opposer à la bourgeoisie, en tout cas pas de parti capable de mener le combat à armes égales avec tous ces partis bourgeois. Et c'est tout le problème. Si les conditions d'existence des travailleurs reculent depuis des décennies, s'ils sont désorientés, si la confusion règne dans beaucoup de têtes, c'est qu'il n'y a plus de parti ouvrier digne de ce nom depuis longtemps. Le vote pour ma candidature permettra, le temps d'une élection, de faire apparaître les travailleurs comme une force politique, comme un camp politique. Mais il faut aussi qu'ils se maintiennent après les élections. Parce que nous n'avons pas seulement besoin d'exprimer nos intérêts à un moment donné, nous avons besoin de mener le combat tous les jours, au quotidien, dans les entreprises, et puis en permanence, contre la politique anti-ouvrière qui est relayée par tous les gouvernements qui se succèdent, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et cela, eh bien, c'est le rôle d'un parti. Il faut un parti qui affirme que la société est divisée en deux classes, aux intérêts inconciliables, et que nous, nous devons nous battre en ne comptant que sur nos forces pour défendre notre droit à l'existence. Un parti qui affirme que les travailleurs peuvent très bien se passer du grand capital parce que ce sont eux qui font tout fonctionner dans la société. Alors voter, ce n'est pas encore construire ce parti, mais c'est déjà rassembler de façon ponctuelle derrière un drapeau et d'élection en élection, de mouvement de grève en manifestation, cela participe de la construction du parti. Alors votez et entraînez les gens autour de vous pour faire entendre le camp des travailleurs et aidez-nous à construire ce parti qui manque tant à la classe ouvrière. À gauche de la gauche, le vote pour Mélenchon n'a pas du tout cette signification. Mélenchon a lancé le mouvement de la France insoumise pour mener sa campagne. Dans certains de ses meetings, il parle de la classe ouvrière, de son rôle indispensable et de ses droits. C'est une petite musique plaisante aux oreilles, mais il manque les paroles. Concrètement, quels sont les engagements de Mélenchon vis-à-vis des travailleurs ? Il promet l'abrogation de la loi El Khomri, le SMIC porté à 1300 euros net, les vrais 35 heures. Eh bien, c'est loin. C'est très loin de ce qui est nécessaire. Et pourquoi ? Parce que Mélenchon se veut responsable, parce qu'il veut proposer une politique acceptable par la classe capitaliste. C'est bien beau de dénoncer la finance. Je vous rappelle quand même que Hollande l'avait fait superbement en son temps. Tout le monde s'en souvient. Le problème, c'est qu'il faut dire si l'on est prêt ou pas à renverser la finance, c'est-à-dire à l'exproprier. Mélenchon se dit prêt à renverser beaucoup de choses. La Ve République, les traités européens, mais pas le pouvoir de la bourgeoisie, pas la propriété privée de la bourgeoisie sur les moyens de production. Avec d'autres, y compris Le Pen et Dupont-Aignan, Mélenchon se veut le champion du souverainisme et de l'indépendance de la France. En renégociant ou en sortant de l'Union européenne et de l'OTAN, nous redeviendrions souverains, nous dit-il. Le pouvoir reviendrait au peuple. Ce sont des mots en l'air. Les seuls souverains dans cette société, ce sont les capitalistes. C'est Michelin, le roi du caoutchouc, Bettencourt, la reine des cosmétiques, c'est Sanofi, le grand maître des médicaments. Quand on est exploité, quand on appartient au monde du travail, eh bien on est souverain de rien du tout. Que les lois se décident en France, dans une 5e ou une 6e république, ou à l'échelle de l'Europe. On est dépendant de cette classe qui détient les capitaux. Et qui a le pouvoir de nous embaucher ou non, qui a le pouvoir de nous verser un salaire entier ou pas, qui a le pouvoir de fixer nos horaires, les dates de nos congés, de nos vacances. On est dépendant pour tout, pour le choix de son métier, de son poste de travail, pour le choix de son lieu de travail, y compris quand on est étudiant. Comment choisit-on ses études ? En fonction de ses envies, de ses passions ? Non, en fonction du marché du travail. C'est-à-dire en fonction des besoins patronaux. Alors parler de souveraineté, eh bien c'est encore une façon de faire croire qu'il y a des intérêts communs entre les travailleurs et la bourgeoisie. C'est brouiller les consciences des travailleurs et c'est une façon de les détourner de leur combat de classe. Alors laissons ces mots d'ordre de souveraineté du peuple ou de la France aux partisans de la bourgeoisie et reprenons les objectifs qui ont toujours été ceux du mouvement ouvrier, l'émancipation des exploités à l'échelle de la planète. Et émancipation qui sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et pas celle d'un sauveur suprême. Mélenchon fera plus de voix que moi, parce qu'il est compatible avec le système. Parce qu'avec lui, tous ceux qui cherchent un raccourci en dehors des luttes collectives et qui veulent se raccrocher à un sauveur suprême seront bien servis. Mais les voix qui se porteront sur Mélenchon ne mèneront nulle part, si ce n'est à de nouvelles désillusions. En revanche, les quelques centaines de milliers de voix qui se porteront sur ma candidature auront, elles, contribué à définir un camp politique, à élever la conscience de classe. Elles auront armé politiquement les travailleurs. On ne peut pas regretter le recul de la conscience ouvrière et renoncer à affirmer sa propre conscience de classe quand on en a l'occasion politique. Oui, le monde ouvrier a besoin de repères et d'une boussole. Eh bien, il faut que cette élection soit l'occasion de les mettre en avant. Et à l'inverse de Mélenchon et de son mouvement, qui n'existe que pour le porter à la présidence de la République, eh bien, notre campagne nous aidera, nous, à avancer dans la construction du parti qui est nécessaire aux travailleurs. Oui, ce sera un vote constructif. Malgré toutes les trahisons subies, il faut que le mouvement ouvrier retrouve confiance en lui-même. Appartenir au monde du travail doit être un motif de fierté. Nous, ouvriers, employés, enseignants, cheminots, femmes de ménage, fonctionnaires, caissières, nous faisons tout tourner, nous produisons toutes les richesses. Alors oui, nous représentons une force sociale. Une force sociale qui a prouvé à bien des reprises dans le passé qu'elle n'était pas vouée qu'à subir, mais qu'elle pouvait aussi se battre. Cette année, nous fêtons le centenaire de la Révolution russe. Il y a 100 ans, les ouvriers et les paysans russes ont fait la preuve que la classe ouvrière pouvait prendre le pouvoir et s'en servir pour transformer la société par en bas, pour en créer une autre, radicalement différente, basée sur la propriété collective. Une société sans patron, sans la domination de l'argent et du profit. Une société et une économie d'abord organisées pour répondre aux besoins de toute la population. Il faut connaître cette histoire. Parce que le peu de temps que les travailleurs sont restés au pouvoir, eh bien, ils ont réalisé ce qu'aucun autre gouvernement n'a fait. Aussitôt mis en place, le pouvoir révolutionnaire a soutenu les paysans pour qu'ils se distribuent les terres. Il a organisé la production pour répondre aux besoins urgents de la population en contrôlant et en expropriant quand la bourgeoisie ne voulait pas collaborer. Il a réquisitionné les immeubles bourgeois pour que tout le monde ait un toit sur la tête. Et puis surtout, le plus important sans doute, il a mis fin à la participation de son pays à la boucherie que constituait la Première Guerre mondiale. Il a donné la possibilité à tous les peuples qui étaient sous la domination de la Russie de se libérer et d'être indépendants. Et il a non seulement donné l'égalité des droits aux femmes, mais il les a associés à tous les niveaux du pouvoir. Quel autre gouvernement prétendument démocratique a réalisé tout cela? Aucun. Et même si le stalinisme a finalement pris le dessus, en déformant, et en caricaturant et en trahissant les aspirations des révolutionnaires, eh bien cela ne peut pas effacer ce que les travailleurs ont réalisé. Alors oui, les travailleurs ont de quoi être fiers de ce que leur classe sociale a accompli dans le passé. Et il ne s'agit pas que du passé, il s'agit aussi de l'avenir. Les travailleurs sont les seuls à pouvoir impulser une société débarrassée de l'exploitation, du capitalisme, de la concurrence, de ses crises et de ses guerres. Parce que le capitalisme ne pousse pas seulement les opprimés à la déchéance matérielle. Il pousse toute la société à la décadence morale. Il pousse à l'indifférence, à l'isolement ou à la haine de l'autre. Et il fait le lit de la délinquance et aussi de ce fanatisme religieux. Quand ce n'est pas la barbarie des bombardements, et du terrorisme, C'est la barbarie des murs, des barbelés, que l'on oppose aux centaines de milliers de femmes et d'hommes qui fuient l'enfer. Et regardez comment, sur cette question des frontières, les principaux candidats sont d'accord pour dire qu'il faut des frontières toujours plus étanches, toujours plus hautes. Et tous de nous répéter en boucle qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais dans les beaux quartiers, l'argent coule à flot. Les caprices de riches se chiffrent par centaines de millions. L'argent gaspillé dans la spéculation se compte par dizaines, par centaines de milliards. Et on ne pourrait rien faire contre la misère. La misère, ce sont eux qui la fabriquent. Ils la fabriquent en Syrie, par leurs manœuvres et par leurs bombes. Et ils la fabriquent ici, par le chômage et la précarité. Et ils se servent du drame des migrants pour nous prêcher la résignation. Parce qu'au fond, ils nous disent qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, exactement comme ils nous expliquent qu'on ne peut pas assurer un travail à tous ou qu'on ne peut pas espérer avoir une retraite à 60 ans. Alors, en tant qu'exploités, il faut avoir conscience que nous sommes tous des migrants potentiels. Et il ne s'agit pas que d'une question de solidarité. Il est de notre intérêt à tous de nous battre pour la liberté de circulation et d'installation de tous les opprimés de cette terre. Notre intérêt n'est sûrement pas de nous battre entre nous pour se partager la misère, c'est d'imposer ensemble le contrôle sur les richesses que nous produisons et c'est de s'opposer à ce qu'elles soient confisquées par une minorité. Les travailleurs sont les seuls à n'avoir rien à gagner à la concurrence entre eux, à n'avoir rien à gagner à la compétition économique entre les peuples, rien à gagner aux guerres qui sont le fruit des rivalités impérialistes. Les travailleurs sont de toutes nationalités, de toutes les religions et de toutes les couleurs de peau, mais ils n'ont qu'une politique qui représente leurs intérêts, c'est celle de se libérer de l'exploitation. Alors, loin très loin de l'individualisme effréné du capitalisme, eh bien oui, il représente la seule force sociale capable de construire une société de justice, de fraternité, débarrassée des classes sociales, mais aussi du nationalisme, du racisme et de la xénophobie. Ils sont aussi les seuls à pouvoir mettre en place une société capable de résoudre les problèmes écologiques. Parce qu'il en va de la préservation de notre environnement comme du reste. Tous les politiciens font des promesses, mais au pouvoir, ils sont incapables d'empêcher les catastrophes annoncées. Pour la simple et bonne raison que ce sont toujours les capitalistes qui ont le dernier mot. Tant que l'on n'est pas résolu à combattre cette mainmise de la classe capitaliste qui ne jure que par ses profits, eh bien, on peut parler de l'économie de la mer, des énergies renouvelables, mais on parle pour ne rien dire. Alors oui, bien sûr, les problèmes écologiques illustrent l'urgence qu'il y a à supprimer la concurrence et la course au profit. Ils illustrent la nécessité d'enlever à la bourgeoisie la direction de l'économie et de la gérer collectivement. Ils illustrent la nécessité de planifier les moyens de production dont nous disposons en fonction des besoins de tous et de la préservation de l'environnement. Et cela, il n'y a que les travailleurs qui peuvent le faire. Alors voilà aussi ce que représente pour nous le camp des travailleurs, la perspective d'une société communiste. Depuis des décennies, l'élite dite intellectuelle explique qu'il n'y a plus d'ouvriers, qu'il n'y a plus de classe ouvrière. Et aujourd'hui, on entend même parler des travailleurs comme d'une espèce en voie de disparition. Mais nous, sommes quoi ? Nos familles, nos barres d'immeubles, nos quartiers, nos villages sont composés de rentiers, de capitalistes ? Non, bien sûr, de femmes et d'hommes qui travaillent, qui cherchent ou qui en cherchent un, et qui travaillent souvent dans les métiers les plus pénibles. Et puis, l'économie que l'on nous sert comme moderne, l'économie Uber, eh bien, elle aussi, elle produit des travailleurs, dont des chauffeurs, qui étaient peut-être fiers d'être indépendants il y a un ou deux ans de cela, mais qui aujourd'hui se battent pour être embauchés en tant que salariés. Alors oui, la classe ouvrière existe. Et s'il y en a qui peuvent prétendre qu'elle n'existe plus, c'est parce qu'elle se rend invisible politiquement. On l'a vu pourtant intervenir dans la mobilisation contre la loi El Khomri. Et encore, ce n'était qu'une fraction des travailleurs qui étaient mobilisés, qu'on voyait dans la rue. Il y avait beaucoup de réserves, hein, dans les bureaux, dans les ateliers, sur les chantiers. Eh bien, il faut que cette classe ouvrière, elle s'exprime sur la scène politique, dans les élections. On nous met dans la tête que l'élection sert forcément à élire quelqu'un. Avec cette logique, forcément, il faut parier sur le tiercé de tête, et moi, je n'en fais pas partie. Mais encore une fois, choisir le prochain président de la République qui nous portera les coups n'a aucun sens. Imaginez une élection. Imaginez qu'une élection soit organisée dans votre entreprise pour élire le futur PDG qui aura pour mission de mettre en œuvre le énième plan de licenciement ou le énième plan de compétitivité. Est-ce que vous le choisiriez ? Eh bien, dans cette élection, c'est la même chose. On nous demande d'élire le prochain président qui fera encore reculer les retraites, qui donnera plus de liberté pour que les patrons nous exploitent, qui baissera nos conditions de vie et de travail. Il ne faut pas marcher là-dedans. L'enjeu ne doit pas être de chercher à élire l'un plutôt que l'autre, mais d'exprimer ses intérêts, ses perspectives politiques. J'appelle tous ceux qui partagent ces idées à voter pour ma candidature sans craindre d'être minoritaire ou à contre-courant. Encore une fois, à quoi cela sert-il de voter avec la majorité si cela conduit à élire un adversaire ? Aujourd'hui, combien de travailleurs se mordent les doigts d'avoir voté pour Hollande en 2012 ? Il faudrait recommencer avec un autre ? Croire qu'il faut voter utile ou voter pour le moins pire de façon à se protéger est encore un leurre. Il n'y aura pas de moins pire pour le monde ouvrier s'il ne se bat pas collectivement, s'il ne renoue pas avec des luttes puissantes. Quant à s'abstenir, ce n'est pas une preuve de conscience ou de radicalisme. S'abstenir, c'est se soumettre. Et puis, c'est déserter. Parce que si nous ne défendons pas nos idées, qui le fera ? Personne ne mènera le combat à notre place. Parfois, on ne trouve pas le moyen de se battre, de faire grève, de manifester ou simplement de protester, parce qu'on est seul ou parce que le rapport de force est trop défavorable. Mais voter, s'exprimer dans l'urne est un geste à la portée de tous, et il n'y a pas de petit combat, il n'y a pas de petit geste. Quand on est minoritaire, au contraire, la moindre voix compte et la moindre voix peut porter. Alors, il faut entraîner le maximum de ceux qui nous entourent à joindre leur voix à la nôtre. Nous sommes, c'est vrai, à contre-courant. Mais quand le courant pousse dans une direction aussi réactionnaire, aussi infecte, voire aussi barbare, quand le courant pousse à la soumission et à la résignation, eh bien oui, nous pouvons être fiers d'être à contre-courant. Alors je suis la candidate de Lutte ouvrière. Les institutions sont faites comme cela, il fallait un nom. Mes camarades m'ont choisi pour porter cette campagne. Mais ce n'est sûrement pas une campagne individuelle ou personnelle. Bien sûr, je serai en première ligne dans les médias et je me battrai comme je pourrai sur les plateaux de télé quand on me donnera la parole. Une campagne comme celle-ci, relayée au niveau national, permet justement de s'adresser à des millions de salariés, de chômeurs. Et parmi eux, eh bien, il y a plusieurs centaines de femmes et d'hommes qui partagent à un degré ou à un autre ces idées. Ma candidature leur permettra de rompre leur isolement et de se rallier à un camp. Elle permettra de nous rassembler et puis elle leur permettra de se conforter dans leurs convictions. Et c'est déjà quelque chose d'important. Mais bien plus largement, il y a aussi tous ceux qui se posent des questions, qui sont perdus. Il y a encore tous ceux qui retombent dans le panneau des illusions électoralistes. Tous ceux qui sont tellement écœurés qu'ils ne veulent plus entendre parler de politique, de voter. Et ils sont dans nos familles. Ce sont des amis, ce sont des voisins, des collègues de boulot. Il y en a peut-être dans cette salle. Eh bien, c'est vous qui pouvez les toucher. En prenant le temps de la discussion, il faut essayer de les convaincre et leur donner envie de s'exprimer en tant que travailleurs, salariés, chômeurs. au-delà du résultat, ce qui comptera, ce sont toutes les discussions que vous aurez eues. Le simple fait d'avoir affirmé des convictions, d'avoir fait réfléchir, d'avoir apporté des réponses, d'avoir fait avancer des idées parmi les nôtres est important. Nous sommes une petite organisation, mais les idées que nous portons nous dépassent parce qu'elles sont inscrites dans les bases mêmes de la société. Elles reflètent la lutte de classe à laquelle des millions d'exploités sont confrontés et tôt ou tard, ils auront besoin de ces idées. Alors, rien n'est à négliger, toutes les discussions seront utiles et pour que ce soit une bonne campagne, pour que ce soit une campagne réussie, eh bien, vous l'aurez compris, il faut que ce soit une campagne militante, il faut que ce soit notre campagne, il faut que ce soit votre campagne. Et pour finir, je voudrais qu'on se projette en mai prochain, au lendemain de l'élection. Qu'est-ce qui aura changé pour nous ? Eh bien, on ira au travail, pour ceux qui en ont encore un. Beaucoup d'autres iront pointer à Pôle emploi ou à l'agence d'intérim. Et on se retrouvera confrontés aux mêmes chefs, aux mêmes patrons, aux mêmes actionnaires invisibles mais tout-puissants. On se retrouvera confrontés à son banquier, à son propriétaire qui n'admet aucun retard de paiement, même quand on a perdu son boulot. On se retrouvera confrontés au pouvoir de l'État, qui sait très bien dérouler le tapis rouge pour les plus riches, mais qui est sans pitié pour les classes populaires. Autrement dit, rien de fondamental n'aura changé pour nous, parce que cette élection ne changera pas notre condition d'exploité, ni cet ordre social dominé par l'argent et par la bourgeoisie. La nouveauté, c'est que le petit personnel politique aura changé, les riches auront un nouveau président de la République à leur disposition, mais pour nous, le combat continuera. Alors, dès aujourd'hui, dans cette campagne, eh bien, levons notre drapeau, celui des travailleurs et des luttes collectives. Votez et faites voter pour faire entendre le camp des travailleurs. Faites un vote de classe, un vote de conscience et de fierté ouvrière. C'est cela qui nous préparera le mieux aux luttes que forcément nous aurons à mener.